Voilà, ce soir, je vais aborder un thème qui demande un peu d'ouverture d'esprit. Oui, d'ouverture d'esprit, car il n'est pas évident pour la plupart des personnes, surtout si on ne l'a pas beaucoup, beaucoup pratiqué, mais il est important. Et donc, je vais aborder le thème des trois caractéristiques. C'est un thème qui souvent n'est pas abordé en début de retraite. Et le fait que ce soit le dernier soir de la première semaine, ça permet de partir avec une certaine aspiration, je l'espère, pour ceux ou celles qui partent demain. Et puis aussi de pouvoir quelque part avoir une perspective d'engagement, de contemplation de ces caractéristiques, qu'on soit chez soi ou qu'on continue la retraite encore une semaine. Ils sont toujours à l'œuvre. Donc, bien sûr que je vais les nommer. Vipassana signifie véritablement comprendre la nature de la réalité, telle qu'on la comprend dans cette psychologie bouddhiste. Et les trois caractéristiques, eh bien, signifient comprendre cette nature de la réalité. Donc, pas tant les contenus de nos expériences, mais vraiment aller au contact des phénomènes. Ce qu'on vous invite à faire depuis le début. une sensation, une pensée, une tonalité affective. Voilà. Donc, il y a tout cet aspect qui s'approfondit au fur et à mesure de notre rencontre avec chaque expérience, chaque instant. Et donc, ces trois caractéristiques, je vais déjà les nommer, puis ensuite les expliquer. Donc, il y a anicca, qui est le terme pali, qui signifie impermanence. Ensuite, il y a ce deuxième terme qui est dukkha, que nous avons déjà nommé, cité, qui signifie non-fiabilité, qui peut aussi signifier naturellement le stress, la souffrance, l'insatisfaction. Il y a énormément de termes qui sont quelque part donné en français pour ce terme de dukkha. Plusieurs types de dukkha aussi. Et le troisième caractéristique, troisième quelque part composant de cette nature de la réalité, s'intitule anatta. Et anatta est traduit en français par le non-soi. C'est surtout de ceci que je vais parler ce soir, mais le mettre quand même dans un contexte. Donc, ces trois caractéristiques, elles sont universelles. Ce n'est pas personnel, elles sont universelles. Donc, ça, c'est une chose absolument importante à savoir. Tous les êtres sensibles, quelque part, sont mus par ces caractéristiques. Et ce sont aussi, quelque part, des caractéristiques qui s'appliquent à tous les phénomènes conditionnés, corporels ou mentaux. Causes et conditions qui naturellement se perpétuent, agréables, désagréables, ce sont des phénomènes qui émergent, qui passent. Et bien sûr, l'invitation aux méditations, c'est les voir clairement, les voir à l'œuvre. D'accord? Donc tranquillement, on va naturellement pouvoir avoir une perspective non pas intellectuelle, mais expérimentale. C'est l'invitation en tout cas. Donc c'est assez intéressant par la pratique méditative et c'est vraiment la clé, on peut dire, la pratique méditative nous permet d'aller au contact et puis naturellement émerge une sagesse, ce qu'on appelle sagesse intuitive. Ça veut dire quelque part une qualité de présence éclairante qui va dans le sens de la liberté, dans le sens de la compréhension la plus profonde qu'on puisse quelque part explorer en tant qu'être humain. Ces trois caractéristiques, donc, vont naturellement être interdépendantes. Elles sont interreliées. En apparaît une, souvent les deux autres suivent. Et pour chaque être, c'est très intéressant de voir qu'il y en a peut-être une qui est plus parlante. Donc déjà, en m'entendant ce soir, vous pouvez remarquer, ah oui, tiens, celle-ci, il y a quelque chose qui naturellement me parle d'une manière très claire, une autre beaucoup moins. Les trois sont des portes vers la liberté. porte vers la liberté. Donc, la première, je vais quand même en dire quelques mots. L'impermanence. Tous les phénomènes naissent, changent, disparaissent. Vous avez pu remarquer ça aujourd'hui, non ? Hein ? Donc, est-ce que vous avez eu un état d'humeur semblable depuis le lever ce matin jusqu'à ce moment-ci ? Combien d'états d'humeur différents ? Plein. C'est le changement. Sensations corporelles, est-ce qu'elles ont été identiques du matin au soir ? Certainement pas. Impermanence. Donc rien ne dure, rien ne dure. C'est vraiment cette dimension-là qu'on peut explorer dans notre méditation, et vraiment pas en tant que concept, mais en tant qu'expérience. Lorsqu'on est au contact, par exemple, de la sensation de la respiration, eh bien on peut explorer comme objet de méditation la respiration, mais on va inclure, tiens, le changement. Comment une inspire va naturellement se manifester et se transformer en expire. Vous voyez, c'est très pratique. C'est vraiment absolument extraordinaire de pouvoir sentir ça, et on sent le mouvement. Et donc, notre idée de concept, de stabilité et autres, est ébranlée. Ça, c'est clair, quand on est au contact. D'accord ? Donc, ça nous semble stable, parce qu'on n'est pas au contact. Donc, à distance, l'idée de la respiration, on dit, ouais, c'est pour ça que ce n'est pas intéressant d'être avec la respiration, parce que de toute façon, elles sont toutes semblables. Les unes après les autres, elles ne changent pas. Donc, ça m'ennuie d'être avec cette respiration. Mais quand on commence à être vraiment au contact, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vie là. Donc, naturellement, que le changement est quelque chose qu'on conçoit et qu'on ressent. De la même manière qu'on peut ressentir la température qui change du matin au soir. D'accord ? Donc, ici, en ce moment même, vous avez certes plus chaud que quand vous avez eu votre première méditation ce matin. C'est aussi pratique que ça. Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas en train d'explorer des choses extrêmement complexes. C'est beaucoup plus simple d'être dans une salle de méditation qu'à l'université, sérieusement, parce que c'est accessible, c'est directement visible, dans le sens de voir, dans le sens de ressentir. Deuxième, c'est justement cette dimension de dukkha, d'insatisfaction, non-fiabilité ou stress. Parce que les choses sont impermanentes, parce que les phénomènes changent, s'y attacher crée du stress. Le fait de s'y agripper quelque part crée de la souffrance. Donc ce n'est pas le phénomène lui-même qui crée de la souffrance, c'est parce qu'on veut quelque part s'agripper, on veut que ça ne change pas. Et surtout, quand c'est agréable, on n'a pas envie que ça change en désagréable, ça c'est sûr. Donc on se rend compte que il y a la saisie, il y a l'agrippement. Donc cette notion de dukkha ne signifie pas uniquement la douleur physique, c'est vraiment cette dimension extrêmement évidente que nous sommes dans un inconfort lorsqu'on ressent la non-fiabilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en contrôle. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que ça nous met, bien sûr, dans un état de stress. Les conditions changent, on ne peut pas choisir les conditions comme on voudrait qu'elles soient, soit dans notre vie, mais aussi dans notre esprit. Et ça, c'est très, très éclairant. Parce que bien sûr que nous, on a encore cette possibilité dans notre existence, dans notre perspective d'occidentaux, de pouvoir quand même choisir. Hein ? On choisit notre vie. Hein ? On choisit un métier, on choisit un lieu de vie, etc. Donc, quelque part, on peut avoir une certaine confusion dans le sens de dire « Mais bien sûr que je choisis ma vie !» Je fais ce que je veux dans ma vie. Oui, jusqu'à un certain point. Et jusqu'à ce que tout à coup, comme pour moi, la maladie vienne me visiter. Puis je me dis, waouh, c'est incroyable. Ça, je ne l'avais pas prévu. Et puis du coup, il y a un arrêt là. Et on se dit, fiabilité du corps. Tiens, ça me questionne. Est-ce que ce corps est vraiment fiable? Eh bien non, pas vraiment. Voilà, après, ben, il se répare. Hein. Là, vous le voyez, il est plus ou moins en forme. Hein. Donc, il s'est réparé. Mais il y a naturellement cette composition-là qui fait qu'il y a du changement et que par moment, eh ben, on peut se rendre compte que ce n'est pas si fiable. Et donc ça, c'est dukkha. Le dukkha qui provient des conditions qui changent. Et le fait de vouloir saisir pour que ça demeure, que le plaisant demeure et qu'on n'éprouve jamais de déplaisant, est un non-sens. Mais Dieu sait si on essaye. Voilà. Donc, une assise paisible, vous avez pu le voir aujourd'hui, un hein, petit moment de calme déjà, pour revenir dans la retraite. Ah, le calme, plus de douleur physique peut-être, un moment, voilà, enfin. Et tout à coup, l'assise suivante, ça a complètement changé. Il y a de l'agitation dans l'esprit, il y a des douleurs à nouveau. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne reste pas? Déception. Déception, dukkha. Donc vous pouvez vraiment dire, tiens, que dukkha ben, est quelque chose que vous pouvez percevoir, ressentir et accueillir. Donc c'est une caractéristique universelle. Le troisième anatta. Cette dimension qu'on appelle le non-soi et qui est tellement intéressante parce qu'elle est souvent mal comprise. Donc, il est dit d'une manière très claire qu'il n'y a pas d'entité solide, séparée, indépendante de ces processus physiques et mentaux qui changent constamment. Donc, ce que nous sommes est un processus dynamique, changeant, d'énergie changeante, d'éléments physiques, composition d'états mentaux, composition de tonalités affectives, naturellement, et de différents types de conscience. Il y a toujours de la conscience. Voilà. Donc, je vais bien sûr élaborer un petit peu plus là-dessus. Mais ces trois caractéristiques fondamentales de l'existence, elles ne sont pas simplement à réfléchir. On peut réfléchir dessus, c'est déjà une première manière. Hein. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps dans une retraite où j'ai choisi une heure dans la journée où je me suis dit, tiens, la réflexion, ça peut être aidant. Étudier. Et l'étude peut être tout à fait judicieuse à un moment donné, simplement. Réfléchir sur cet aspect des trois caractéristiques. Mais en retraite, puisque c'est une situation tout à fait privilégiée, on essaye de laisser un tout petit peu la réflexion pour vivre l'expérience pleinement. C'est ça, tout le sens de notre retraite est ceci. Hein. Instant après instant, on va découvrir une de ces caractéristiques qui naturellement ouvre la porte sur la suivante. Impermanence, dukkha, anatta. Donc, lorsqu'on parle des deux premières, dukkha et impermanence, anicca, généralement, on dit, ouais, on comprend, quoi. Je veux dire, non. Vous êtes d'accord, qui ne comprend pas ça, ce que je viens de décrire, c'est assez simple. Ce concept du non-soi, eh bien, il n'est pas si évident. En réalité, on dit qu'il est plus facile de déplacer une montagne d'un endroit à un autre que de déplacer la vanité qui provient de ce sentiment du moi-je. C'est incroyable, ça, quand même. Donc, qu'est-ce que c'est que ce sentiment de la vanité du soi, du moi-je? Ben, c'est ce sentiment qu'on est le centre du monde, quelque part. Que tout tourne autour de ce moi, de ce je, parce que forcément, on existe à partir de nous-mêmes. Mais l'incompréhension là, c'est que ce sentiment que nous existons de manière solide, non changeant, en tant qu'individu distinct, séparé de la nature, par exemple, est une confusion. Ceci s'intitule l'ignorance. Donc, bien sûr que ça pose question. Donc, ne vous inquiétez pas si une partie de ce que je dis ce soir semble avoir aucun sens, ou peut-être que ça vous met dans une réaction, sentiment de rebelle, ou vous déconcerte. Bien, je crois que c'est important de laisser les mots quelque part entrer, vous traverser. Si ce n'est pas de votre intérêt, vous dormez un petit peu, hein. Ça va très bien pendant un moment, de toute façon il fait chaud. Et je crois que encore plus important, c'est d'essayer de voir qu'on ne peut pas tout comprendre dans l'espace d'une retraite. Et souvent, c'est ça qui se passe et qui fait qu'on est en conflit avec ce qu'on entend. Donc après, on en veut à l'enseignante. Hein. Pourquoi elle a choisi ce sujet ? Un sujet si compliqué qu'on n'aborde pas souvent, effectivement, par exemple, dans les soirées hebdomadaires, dans notre centre de méditation à Genève, par exemple, parce que ce sont des sujets quand même à aborder qui ne sont pas aussi simples à aborder. Mais dans une retraite, on ne veut pas non plus éviter la profondeur du dharma. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'appartient, c'est ma responsabilité de choisir d'en parler. Et puis, comme ça, tout va bien. Et donc, ces enseignements du Bouddha sur la notion du soi ou du non-soi comprend que les êtres humains, tels que nous sommes, et en réalité tous les êtres sensibles, nous sommes un ensemble de 5 processus changeants, que j'expliquerai dans un tout petit moment. C'est, en réalité, cette nature de l'être est composée, c'est une composition, un ensemble de 5 processus constamment changeants. Notre sens du moi, ce sens du je, émerge lorsqu'il y a une saisie à l'un de ces processus. Lorsque il y a une saisie dans le sens d'une identification par rapport à un de ces processus. On crée un moi. Ce moi est un concept. On le crée lorsque nous nous attachons à ce processus fluide, changeant, en constante évolution. C'est ça qui se passe. Et si on comprend ceci, ben on comprend anatta. Donc, comment est-ce qu'on crée la saisie ? Eh bien, la saisie, c'est quelque part que on va avoir naturellement ici, c'est bien sûr, c'est moi, c'est je qui respire. C'est je, c'est moi qui pense. C'est je, c'est moi qui marche. C'est je, c'est moi qui mange. À un certain niveau, ça ne pose aucun problème. C'est vrai. Conventionnellement, c'est vrai. Au niveau relatif, c'est vrai. C'est pas votre voisin qui mange à votre place, c'est vous. Donc, quelque part, il y a là une réalité tout à fait claire. Et on va parler dans l'enseignement de deux niveaux de réalité. Le niveau relatif, relationnel, ou on peut dire aussi conventionnel, hein, dans le monde. D'accord ? Qui est en lien avec le monde. Et nous allons aussi parler du niveau de réalité ultime. Ultime dans le sens absolu. Donc on prend appui sur ces deux vérités. Il n'y en a pas qu'une seule, il y a les deux. D'accord ? Il y a deux vérités. Et Nagarjuna dit cette phrase, c'est en prenant appui sur les deux vérités que le Bouddha enseigne la loi, c'est-à-dire son enseignement. D'une part, la vérité conventionnelle et mondaine, d'autre part, la vérité du sens ultime. Donc, au-delà des conventions. Donc, conventionnellement, de manière très claire, c'est tout à fait judicieux et évident que nous allons pouvoir utiliser le terme « je ». Le Bouddha l'utilisait. Des fois, il était utilisé le terme Tathagata, le Tathagata. Donc, c'est clair qu'il pouvait avoir plusieurs appellations, mais il utilisait le terme je. Donc, ici, qui vous avez en face de vous? Patricia, je. C'est une désignation, voilà, que j'ai depuis ma naissance. J'ai aussi d'autres noms qu'on m'a donné mes divers maîtres. Voilà, donc on peut avoir divers noms. Hein. Comme pour la plupart des personnes, il y a un prénom, puis il y a un deuxième prénom, voire un troisième prénom. Donc on peut tout à fait avoir une multitude d'appellations, hein, qui nous désignent. Voilà, c'est moi et j'ai une référence. Donc c'est très utile dans le contexte relatif à employer avec discernement, parce que sinon on serait complètement confus, hein, si on ne saurait pas de quoi on parle. Donc on ne nie jamais ceci. Et cette personne, eh ben, elle a une personnalité. Voilà, j'ai ma personnalité, j'ai mes caractéristiques physiques, j'ai mes goûts au niveau de mon habillement, mes bijoux, ma manière de bouger est unique, donc il y a une particularité. C'est pas qu'on est un tous semblable. Chacun est unique dans son individualité. Donc ceci, nous l'avons en conscience, avec nos caractères. Et quand je me promène, ben, vous pouvez m'identifier comme Patricia. Moi, je m'identifie comme je. Voilà, avec quelques structures psychologiques aussi qui m'appartiennent. Comme vous, vous avez les vôtres. Voilà. Donc, le Bouddha, il nie absolument pas à ce niveau-là. Et c'est tout à fait clair qu'il ne s'agit pas du nihilisme. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Et ça, je crois que c'est vraiment très important, parce qu'il y a une incompréhension, très souvent, pour dire, bah, tiens, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de moi, il n'y a personne. Non, pas du tout, il y a une personne. Il y a une personne qui choisit aussi le discernement, plutôt que la confusion. Et l'enseignement comprend beaucoup d'aspects où ce niveau relatif est enseigné. Et en Orient, il est enseigné d'une manière très claire. Chaque enseignement de la part du Bouddha commençait généralement par la générosité. Pratiquez tout d'abord le dana. La générosité. Pour vraiment avoir une clarté par rapport à votre sens d'existence en lien avec autrui. Vous n'existez pas seul. Vous n'êtes pas isolé. Au contraire. Servez. Tout le seva, c'est le service. Ensuite, il y a toute la dimension de la moralité, de la manière dont on se comporte, voilà, l'éthique. Donc, il y avait une clarté tout à fait claire, là. La générosité, le dana, la moralité, sila. Et il y avait aussi un aspect extrêmement important, et dans beaucoup de sutras, il y a cette notion de l'amitié spirituelle. Combien on ne chemine pas seul sur un chemin. Nous sommes ici ensemble. Même si chacun est en lui ou en elle-même, il y a là, naturellement aussi, un aspect collectif. Et voilà pourquoi il a créé une sangha. Ce n'était pas un ermite seul et autre, non. Il avait des disciples. Et il avait des relations très importantes, fortes pour lui. Ananda, son servant, était quelqu'un de très important pour le Bouddha. Son fils Rahula, ses deux principaux disciples, Sariputra et Moggallana. Donc, il y avait naturellement un monde autour de lui. Et donc, ces valeurs-là, elles sont là. Vous voyez combien c'est important de le concevoir comme ceci, et pas dans un espèce de vacuum où on est complètement déconnecté du monde. Pas du tout. Donc, il y a un cheminement, il y a un questionnement. Et naturellement, ceci est important. Maintenant, dans le sens de la vérité ultime, ce moi, ce je, est une construction qu'on juxtapose, qu'on colle, si vous voulez, sur des processus qu'on nomme un ensemble qui s'intitule les cinq agrégats. Certainement, vous avez déjà entendu parler des cinq agrégats, j'imagine. Agrégat, c'est un terme assez technique, hein. Mais en pali, c'est kanda. Et c'est tellement intéressant parce que c'est en fait un tas. Il était tellement pragmatique. C'est un tas de bois. hein, comme on l'en voit là, l'état de bois, c'est un ensemble, voilà, un composé, hein, ou un tas de sable. Et donc c'est ça qu'on est, nous, un tas. J'aime bien ce terme, en fait. Voilà, donc dans de nombreux sutras, le Bouddha va parler de cette composition qui nous rassemble. Et c'est très simple, en fait. On a vu ça chaque jour. Donc rien de nouveau. Et c'est d'éprouver l'expérience subjective de ces cinq processus qu'on nomme « je », auquel on colle un mot « je ». C'est moi qui mange, c'est moi qui marche. Je suis fatiguée, je suis contente. Vous voyez, qu'est-ce qui fait le « je » ? Le langage, c'est le langage. Et c'est évident qu'on utilise le langage, donc c'est juste de l'utiliser. Mais quand vous êtes véritablement au contact, est-ce que vous vous dites chaque seconde « je » ? D'avoir cette référence tout le temps « je »« moi » C'est bon, Tera ou Gunatana qui dit « there's too much, me, aïe, 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 mine » Il était tellement drôle quand il nous enseignait. Il dit « lâchez le mi, mine » Donc, qu'est-ce que c'est que ces processus ? Eh bien, c'est très simple. Un est physique. Les sensations, le corps. C'est ça, le premier, c'est le corps. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du corps, des sensations physiques, chaleur, dureté, fraîcheur, les éléments qui nous composent. On peut aussi explorer les éléments. Je ne vais pas m'attarder là, parce que je ne vais pas faire comme hier soir. Hein, on est d'accord. Je ne suis plus... Donc, on a le corps, voilà, avec tous ces éléments. Et puis ensuite, il y a les quatre autres, qui sont des compositions qui appartiennent quelque part à la conscience, au mental, phénomènes mentaux. Voilà. Donc, on en fait l'expérience dans la pratique de la méditation à chaque instant. Le deuxième, qu'est-ce que c'est ? La sensation affective. On l'a vu amplement. Cécile a très bien guidé l'instruction il y a quelques jours, quelques matins, le Vedana, à plusieurs reprises, cette dimension d'agréable, désagréable, ou ni l'un ni l'autre. C'est le deuxième agrégat. Donc on peut, bien sûr, quelque part, le vivre, l'éprouver, ou l'éprouver en ce moment même. Est-ce que c'est agréable en ce moment ? Est-ce qu'il est désagréable, ce Vedana ? Est-ce qu'il est neutre ? Ça dépend où vous portez votre attention. Mais il est toujours là, imaginez-vous, c'est tout le temps présent. Donc on peut toujours s'y référer. Ensuite, il y a le troisième, qui est l'agrégat de la perception. On en a parlé hier soir de la perception. C'est cette perception auditive, visuelle, gustative, qui va naturellement identifier un objet. Qui va reconnaître l'objet comme il est. Ah, perception visuelle qui nous permet de reconnaître, tiens, est-ce que c'est du romarin ou est-ce que c'est de la sauge ? Voilà, donc c'est qu'un exemple bien sûr. Hein. On n'est pas là l'observateur des plantes. Mais c'est ce qui va quelque part reconnaître, percevoir et ensuite nommer. C'est la perception qui donne le nom. Vous voyez, c'est un élément de la conscience, mais c'est la perception qui nous permet quelque part de reconnaître ceci est un oiseau, d'accord ? Et ceci est un hérisson que j'ai vu l'autre soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais magnifique. Voilà. Donc c'est la perception qui repère exactement quel type d'objet c'est et peut le nommer. Et ensuite, il va naturellement avoir cette capacité, et heureusement qu'on a cette capacité. C'est d'archiver. C'est, si on veut, c'est la boîte d'archives. C'est là qu'on stocke quelque part les noms. C'est-à-dire qu'on va avoir à ce moment-là une capacité de discernement. Donc la perception discerne. C'est ceci, c'est cela. Le chant de l'oiseau ou le son le bruit qu'a fait l'avion aujourd'hui. Donc perception, reconnaît. Tous ces agrégats sont impermanents. Ils ne sont pas semblables deux instants de suite. Donc, c'est tout à fait probable qu'à un moment donné, on peut percevoir un lieu comme étant très agréable, perception positive, là, mon lieu de vie, là, que je partage avec Sandrine et Charles, sympa, super et tout, premier matin, voilà, génial. Et puis, quelques jours plus tard, dans ce même lieu, problème d'évacuation d'eau dans la douche. Waouh, l'eau. Je me suis dit, moi, ça va aller jusqu'où là? Donc j'arrête la douche, j'attends, hein, 5 minutes, 10 minutes, l'eau s'évacue pas vraiment, on revient, ouais. Eh bien, en fait, ma perception de ce lieu super positif quand je suis arrivée, elle s'est modifiée. Hein. Voilà. Un peu moins positive. Bah, anicca, voilà. Anicca impermanent. Voilà, ça va revenir agréable, hein, parce que là, je vais essayer de faire quelque chose, parce que je suis encore là une semaine. En tout cas, je l'espère. Donc, vous voyez que ça bouge tout le temps, ça apparaît, ça se dissout à chaque instant, dépendant de quoi ? Des conditions, des causes et conditions. Ce n'est pas, quelque part, dans mon contrôle. Bien sûr que je vais essayer, avec discernement, d'améliorer cette condition. Qui sait si ça va marcher ? Voilà. Dukkha anicca à l'œuvre. Et en même temps, ce n'est pas quelque part entre mes mains complètement. Donc, le prochain agrégat sont les états mentaux. Et ça, on en a plein. Hein. Donc, les états mentaux, vous les connaissez bien. Il y a la conscience. Et il y a naturellement, dans la conscience, je ne sais pas pourquoi je le place là, je pourrais la placer ailleurs. Hein. Il y a des états mentaux qui teintent cette conscience ou cet esprit. Hein. La joie, par exemple, est un état mental. Le désir attachement, dont a parlé Sandrine, en est un. La tension, en est un. La sagesse, l'équanimité, l'ignorance, la colère. On en a plein de ces états mentaux. Hein. Donc, ce sont clairement des phénomènes que l'on peut reconnaître directement, conscient d'un son, conscient d'une perception auditive, conscient d'une pensée, conscient de la joie, d'un état d'humeur. Tout ceci, on le perçoit immédiatement. Et tout ceci change d'instant en instant. Ceci est la nature de la réalité. Là, il n'y a absolument aucun problème, aucun doute par rapport à être imprégné momentanément de chacune de ces qualités, de ces états mentaux. Certains sont bénéfiques, hein, sont apaisants, et certains nous troublent. On est bien d'accord. Hein. Là, hier soir, j'ai parlé de la honte, par exemple. Bah, ouais, ils nous troublent. La honte ou le jugement, bah, ça nous trouble. D'autres sont extrêmement agréables à ressentir et équivalents à la paix. Ou au bonheur. Donc le monde va nous apparaître de façon différente si nous considérons le monde avec un état mental de paix, de joie, de contentement, ou si nous percevons le monde avec un état mental de jugement, de tristesse, de frustration. Ceci apparaît dans notre esprit. Ce n'est pas l'extérieur, c'est nous sommes affectés par ce qui nous habite, les conditions intérieures. Vous voyez ? Donc c'est absolument essentiel de percevoir que ça, c'est un point important. On perçoit le monde comme on l'habite. Ça peut être une merveilleuse journée, si vous êtes de mauvaise humeur, ben elle va naturellement pas être aussi formidable que si vous êtes de bonne humeur. C'est absolument extraordinaire de percevoir ça. Donc ici aussi, tout est changeant. Donc, il en manque un. Vous êtes d'accord ? Le dernier. Dernier agrégat, c'est quoi ? Eh bien, c'est la conscience. Sandrine en a parlé un petit peu. 6 types de conscience. Dans ce registre, c'est pas bien sûr qu'on a une conscience, Mais dans ce registre-là, quelque part, chaque sens, ok, nous permet d'avoir un type de conscience particulier. Quand on goûte un aliment, conscience gustative. Quand on écoute, en ce moment, par exemple, conscience auditive, conscience visuelle. C'est logique. Il y a six types de conscience. On inclut toute la dimension ici de l'esprit, du mental. Donc, c'est quelque part ce qui va nous habiter et qui va faire qu'on va pouvoir avoir un surgissement d'instant en instant de chacune de ces expériences momentanément. Alors, ces cinq agrégats, ce que je viens de décrire là, sensations affectives, le corps, la tonalité affective, les perceptions, les formations mentales ou les états mentaux et les types de conscience, cohabitent. C'est un ensemble, une composition, et ils sont complètement interdépendants. D'accord ? C'est un enchaînement d'un processus d'interdépendance. Et il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, si vous voulez vous y intéresser. Fin de retraite, on pourra vous donner peut-être quelques lectures au sujet de cet enchaînement d'interdépendance. Tout est interdépendant. Donc, voir ces trois caractéristiques, vraiment, quelque part, les comprendre, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, quelque part, diminuer notre confusion au sujet de qui nous sommes, dans le sens de complexifier. Il y a là une capacité de pouvoir se rendre compte qu'on peut vivre notre existence à partir d'instant après instant, de causes et conditions, et de ne pas, quelque part, alimenter la saisie. Et alimenter la saisie, c'est justement s'agripper. C'est rien d'autre que l'agrippement, à vouloir l'agréable dur et vouloir se débarrasser du désagréable. C'est déjà ça, un niveau, c'est extraordinaire ça. Si vous y arrivez déjà, c'est extraordinaire. Parce que c'est le non-attachement. Et moins il y a d'attachement, d'agrippement, de soif d'existence ou de non-existence, par exemple, moins de crever, plus il y a de liberté intérieure, plus il y a d'espace, plus il y a de clarté. Une autre manière de voir ceci, c'est moins il y a d'ignorance dans le sens de la confusion, de confondre et de croire vraiment. La seule chose qui change, c'est qu'on a une vision erronée, okay, de notre propre être, croyant qu'il est isolé, séparé, et qu'il est complètement, quelque part, isolé du reste de l'existence. Et ça, on le vit malheureusement de cette façon-là. On voit ceci à l'œuvre. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Sandrine, mais il y a là quelque chose de très important. Donc si on commence à y voir un petit peu plus clair, bah, on comprend qu'il n'y a rien à éliminer. Hein. Il n'y a absolument rien à éliminer, sauf la confusion. C'est seulement la vision erronée d'exister en tant qu'entité permanente, non changeante, qui est un non-sens en réalité, puisque depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, vous avez changé. Hein. C'est évident. Votre corps a changé, votre forme a changé, votre caractère a changé, on a mûri. Enfin, tout ça paraît tellement évident, et en même temps, on a comme l'impression qu'il y a ce moi, ce je, qui perdure là, qui est une continuité. Ben oui, c'est moi. L'autre jour, c'était extraordinaire. On a regardé en famille des photos. C'est génial ces moments-là. Waouh ! Oh, comme j'étais mignonne ! À l'âge de 2 ans, sur mon cheval de bois. Et puis, il y avait naturellement ma sœur. Mais c'est formidable de voir ça. Oh, mais c'est dingue ! C'était moi. Ben oui, c'était moi. En même temps, c'est plus moi. Mais c'est extraordinaire d'avoir, quelque part, ces capacités de pouvoir se dire, tiens, non, mais c'est toujours moi, de toute façon. Ben oui, à un niveau, oui, conventionnellement, oui. Mais, il a changé. Cet être a changé. Il n'y a pas de doute. Et c'est la même chose pour vous. Donc, cette idée de permanence est complètement absurde. Et pourtant, on a cette impression de continuité. Et pourquoi l'avons-nous ? À cause de la saisie. À cause du concept. Uniquement à cause de la saisie du concept. C'est cette dimension-là. Donc, quand on commence à pouvoir, quelque part, affaiblir, on va dire, l'agrippement, dans le sens de vraiment saisir et rester figé, vouloir posséder, prolonger, rejeter, contrôler, eh bien, vraiment d'une manière très délicate et de façon complètement naturelle, au processus de la rencontre de chaque instant en méditation, cette saisie diminue. Elle va s'affaiblir. Elle va s'affaiblir. Que vous le vouliez ou non, elle va s'affaiblir. Et ce qui est génial, c'est que tout à coup, on se dit « Ouh là là, mais ça va être le vide absolu, c'est horrible. » Alors, s'il n'y a plus de moi, eh ben non. C'est merveilleux. C'est plus spacieux. C'est plus tranquille. C'est plus plaisible. Il y a moins de contractions. Il y a moins d'agrippement. Il y a moins de tension physique et naturellement dans l'esprit. Donc, ce qu'on appelle la non-saisie, anupadana, c'est tout simplement l'absence de saisie, la non-saisie, le non-agrippement. En termes positifs, vous pouvez utiliser le terme de vimutti, qui est la libération, c'est liberté, liberté de la saisie. Et c'est ça, ce processus, eh bien, il est absolument évident que lorsqu'on chemine, ça va dans ce sens, ça va dans ce sens. Et si on est là dans cette salle et qu'on a déjà pratiqué, c'est qu'on l'a vécu, on l'a éprouvé à un moment donné, même par petites bribes, mais tout à coup, waouh, oh waouh, voilà. Et ça se produit grâce à la présence et toutes les qualités qui l'accompagnent. Donc, qu'est-ce qu'on brise ? On brise une illusion. On brise une illusion. L'illusion de quoi ? D'un moi permanent. C'est la seule chose qui change. Et qu'est-ce qui fait quand on brise cette illusion d'un moi permanent ? Eh bien, on s'agrippe un peu moins à vouloir que les choses soient d'une certaine manière. Et on accepte un petit peu plus facilement le changement. Le changement, on accueille le changement. Il y a moins de convoitise, il y a moins de soif d'existence, il y a moins de soif de non-existence. Et ça déracine à ce moment-là notre sentiment de vanité, d'orgueil. Il y a aussi cette dimension d'orgueil, de « je suis », qui est aussi un autre aspect que je ne vais pas aborder ce soir. Donc très, très clairement, dans notre manière de pouvoir pratiquer, on peut se poser la question d'être au contact d'un son, par exemple, et puis de véritablement demeurer au contact, de l'entendre. Lorsqu'il y a la conscience auditive, et il y a naturellement un objet qu'on entend, il faut un objet, bien sûr, et qu'il y a une porte sensorielle qui marche, c'est-à-dire une oreille qui fonctionne, eh bien, il y a l'émergence, naturellement, d'un contact. Et vous êtes là et vous dites « Oh, waouh, ok ». Conscience auditive, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un référent « je » C'est moi qui entends. Non, ça ne se passe pas comme ça. Immédiatement, il y a naturellement, après on y réfléchit, c'est, mais bien sûr que c'est moi. Oui, conventionnellement, c'est moi qui entends. Mais au niveau du contact direct, il n'y a pas besoin de toujours avoir cette référence « je et moi ». C'est un exemple, mais vous pouvez le pratiquer demain, par exemple. La même manière que quand vous marchez, quand vous marchez, est-ce que vous avez besoin de dire « c'est moi qui marche, il y a le marcheur qui marche ?»« Ah oui, c'est le marcheur qui marche, oui. »« Patricia doit marcher. » Non. Contact tactile, la conscience, la présence, vous pouvez dire aussi la présence, contact, sol, mouvement direct, et c'est ça. Donc ça arrive tout le temps. C'est pas quelque chose de complètement incroyable qui est d'un autre langage. Vous le vivez si vous n'êtes pas constamment en train de fabriquer des constructions mentales, vous distancez. Donc c'est tout à fait clair que ça émerge d'une manière très évidente et on commence à sentir un peu plus de liberté. Donc tous ces moments de non-saisie sont à apprécier. C'est absolument génial de se rendre compte que, waouh, il y a plein de moments où il y a l'absence de saisie. et on commence à sentir simplement ce qu'on appelle un courant de conscience, un courant, un flux d'énergie, un flux de présence sans complications ajoutées. Voilà, je vais terminer avec deux petits textes, un de Tsöknyi Rinpoche qui parle d'une brèche. Il parle d'une brèche quand il y a ce moment de non-saisie. On peut le vivre comme ceci. Il dit « Cet espace est comme une porte ouverte à l'esprit, simplement ordinaire. Lorsque cela se produit, les qualités innées de l'être peuvent commencer à briller naturellement. Il dit que la chaîne de pensée qui relie la confusion n'est soudain plus capable de faire le lien et que les conditions lâchent naturellement. Lorsqu'il n'y a pas de poursuite de la pensée passée, ni d'invitation à la pensée future, ce fossé, donc la présence, signifie que tout le processus de confusion disparaît. » C'est génial, non? Plus rien ne tient, alors qu'est-ce qui se passe? Les qualités du cœur en sont la conséquence. Les qualités du cœur en sont la conséquence. C'est magnifique. Et puis juste encore une petite citation de Buddhadasa, qui était un maître de la tradition Theravada, de la Thaïlande du XXe siècle. Lorsque nous nous connectons réellement à notre propre nature, elle nous nourrit même si à un niveau plus profond, il y a encore des obstacles, mais nous sommes en train de dépouiller les niveaux. Cette identité, cette coquille d'identité devient de plus en plus mince. Plus de trous s'ouvrent pour que la vérité, véritable nature de notre être puisse briller à travers. La nature, l'éclat de ce que nous sommes, ces moments sont tellement normaux. En fait, ces moments où nous pouvons réellement trouver du repos dans notre être sont essentiels. Sinon, nous deviendrions fous. Si nous devions être pris dans un désir constant ou une haine constante, ce ne serait pas tolérable. Il y a un instinct naturel, inhérent, qui va à ce qui apporte l'aise intérieure, la paix. C'est magnifique de pouvoir être là et non seulement écouter ceci, mais le pratiquer.